Ensemble, nous bénissons le Seigneur qui nous comble de ses bienfaits et qui veut aujourd'hui encore planter sa parole dans nos cœurs, sa parole qui est la vérité, comme nous l'a enseigné Jésus. Ce matin, nous allons faire deux lectures sans plus tarder. Deux lectures dans le Premier Testament, une première dans le livre des Nombres, chapitre 9. Nombres, chapitre 9, versets 15 à 23. Nombres 9, 15 à 23. Voici ce qui est écrit. « Le jour où l'on érigea le tabernacle qui sert de tente aux tablettes de l'acte de l'Alliance, la nuée le couvrit. » Le soir, cette nuée au-dessus du tabernacle devint comme du feu et resta là jusqu'au matin. Il en fut continuellement ainsi. Le jour, la nuée couvrait le tabernacle et pendant la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp. Et là où elle s'arrêtait, ils dressaient leur campement. Ainsi, c'est au signal de l'Éternel que les Israélites levaient le camp et à son signal qu'ils le réinstallaient. Aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle, il ne bougeait pas de l'endroit. Même si elle s'attardait longtemps sur le tabernacle, ils observaient fidèlement les indications de l'Éternel et ne partaient pas. Parfois, la nuée ne s'arrêtait que quelques jours sur le tabernacle. C'était toujours au signal de l'Éternel qu'il dressait le camp et qu'il le levait. Il arrivait même qu'elle ne s'arrête que durant une nuit. Lorsqu'elle s'élevait le matin, il levait le camp, ou bien elle s'élevait après un jour et une nuit. Aussitôt, il partait. Qu'elle demeure deux jours ou un mois ou plus longtemps encore sur le tabernacle, les Israélites restaient campés sans partir. Ils levaient seulement le camp lorsqu'elle s'élevait. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils dressaient le camp et le levaient. Ainsi, ils observaient ce que l'Éternel indiquait, conformément aux instructions qu'il leur avait données par l'intermédiaire de Moïse. Amen. Et une autre lecture maintenant dans les psaumes, le psaume 89. Le psaume 89. Et là, les versets 16 à 18. Psaume 89, versets 16 à 18. Où il est écrit « Oh, qu'il est heureux le peuple qui s'est acclamé. Éternel, à ta lumière, il peut cheminer. Il se réjouira sans cesse que tu sois son Dieu. Et c'est grâce à ta justice qu'il peut s'élever. Car c'est toi qui constitues l'éclat de sa force, et c'est grâce à ta faveur que nous triomphons. Amen. » Le thème de la prédication de ce matin est tiré d'un passage de la Bible, et c'est le suivant. « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. La Bible est très explicite sur le fait que Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, est celui qui se choisit un peuple. On sait dans la Bible, et on le voit dès le début, que Dieu ne choisit pas ou Dieu n'appelle pas seulement des individus. Il appelle aussi un peuple. Il appelle aussi un ensemble de personnes à lui appartenir. On sait que Dieu a appelé Abraham, mais quand il a appelé Abraham, ce n'était pas juste pour avoir Abraham tout seul, mais c'était pour qu'au travers d'Abraham, Dieu se forme un peuple qui soit à lui, un peuple qui lui appartienne en propre, comme dit la Bible. Et c'est d'ailleurs la promesse qui est dite à Abraham, « De toi sortira une grande nation, et cette nation sera la nation de Dieu, la nation de l'Éternel. » Et on sait que dans beaucoup de passages de la Bible, c'est un fait qui est vraiment affirmé dans Deutéronome à plusieurs reprises, il est dit « L'Éternel vous a pris pour que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre. » L'Éternel vous a pris pour que vous soyez un peuple pour lui, un peuple à part, un peuple qui lui appartienne, un peuple qu'il soit pour lui. Alors on sait évidemment que dans ces textes, il s'agit du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple élu de Dieu. Mais nous savons aussi dans l'Écriture que Dieu se choisit un peuple parmi les nations, le peuple des rachetés, le peuple de la Nouvelle Alliance, le peuple de ceux qui ont entendu la parole de Christ, qui l'ont reçue et qui ont décidé de se mettre à sa suite, le peuple de ceux qui ont été justifiés par Jésus-Christ, le peuple de ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ. Ce peuple, c'est l'Église. On sait que Dieu n'a pas rejeté Israël, Dieu n'a pas remplacé Israël, mais il se forme aussi un peuple de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de tous les horizons de la terre, un peuple qui lui appartienne, l'Église de Jésus-Christ. Ce peuple n'est pas un peuple qui tire son existence de l'engendrement charnel, c'est un peuple qui tire son existence de la nouvelle naissance, le peuple de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reconnu leur péché, qui ont décidé de le suivre. Le peuple de ceux qui, en suivant Jésus, en acceptant Jésus-Christ, ont été pardonnés de leurs péchés, justifiés, adoptés, sont devenus enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, l'Église, qu'on appelle aussi le corps du Christ. Un peuple dont Christ est la tête, dont Christ est le chef. Un seul corps que Christ dirige, à la tête duquel Christ est. C'est la Bible qui nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ce peuple de Dieu, ce peuple que Dieu se forme au travers de l'Église, c'est un peuple de juifs, de non-juifs, de gens de toute nation, de toute langue, qui viennent de tous les horizons. Mais c'est le peuple qui appartient à Dieu, c'est le peuple qui est à lui. Acte nous dit aussi que Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. L'Église est le peuple qui porte le nom de Dieu, qui porte le nom de Jésus-Christ, sa tête de Jésus-Christ, son chef. L'Église est l'épouse du Christ. L'Église est le troupeau du Christ, nous dit la Bible. L'Église est la maison de Dieu. L'Église est la vigne de Dieu. L'Église est un édifice spirituel, nous dit la Bible, dont Christ est la pierre principale et dans lequel son esprit demeure. Le peuple de Dieu, le peuple qui appartient à Dieu. Dans le texte que nous avons lu de Nombre, il nous est parlé de la façon avec laquelle Dieu dirigeait son peuple au travers de la nuée, de la colonne de nuée. Et si vous avez bien lu le texte, vous vous rendez compte qu'en fait, cette colonne de nuée, cette nuée qui avait parfois l'apparence d'un feu pendant la nuit, c'était le symbole, la manifestation visible de la présence de Dieu. Au travers de cette colonne de nuée qui dirigeait le peuple, Dieu manifestait sa présence auprès de son peuple. Il disait à son peuple, il faisait passer le message à son peuple qu'il était présent et au travers de cette nuée, il dirigeait le peuple, le symbole de la présence et de la protection de Dieu auprès de son peuple Israël. Et comme nous l'avons lu, cette nuée en fait dirigeait le peuple. Lorsque la nuée s'arrêtait sur le tabernacle, le peuple savait qu'il devait déposer les campements. Lorsque la nuée commençait à se déplacer, le peuple savait qu'il fallait tout reprendre et recommencer à marcher. Et il nous est dit que la nuée ne faisait pas toujours la même chose. Parfois, elle s'arrêtait quelques jours et on restait là. Et puis parfois, en une nuit seulement, elle recommençait à marcher. Et au travers de cette nuée, Dieu dirigeait son peuple. Dieu conduisait son peuple dans le désert. Dieu indiquait la direction et le timing à suivre à son peuple. Si on y regarde bien, c'est un miracle cette nuée. C'est la manifestation miraculeuse de la présence de Dieu auprès de son peuple, qui le dirige, qui le conduit, qui lui montre le chemin, qui lui dit lorsqu'il faut s'arrêter, qui lui dit lorsqu'il faut marcher, qui lui dit où il faut aller. Dieu manifeste sa présence auprès de son peuple. Il manifeste sa présence et il dirige son peuple au travers de cette colonne de nuée. La Bible nous dit aussi que depuis cette colonne de nuée, que Dieu parle à son peuple, que Dieu parle à Moïse, que Dieu parle à Aaron. Le texte nous décrit la façon divine et miraculeuse avec laquelle Dieu dirigeait son peuple au travers de ce miracle. Et d'autres textes nous parlent toujours de cette même colonne de nuée, de cette même colonne de feu qui accompagnait le peuple et qui le dirigeait dans tous ses déplacements. Dans Exode, il est dit « l'Éternel allait devant eux ». Le jour dans une colonne de nuée. Donc l'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc cette nuée les dirigeait le jour, leur montrait le chemin à suivre. Et la nuit, cette colonne qui devenait une colonne de feu les éclairait pour qu'ils puissent marcher jour et nuit. Pour que jour et nuit, ils puissent marcher et suivre. Et la Bible dit toujours dans Exode 13, la colonne de nuée ne se retirait jamais de devant le peuple, ni la colonne de feu pendant la nuit. En tout temps, cette colonne était là. En tout temps, de jour et de nuit, elle était auprès du peuple. La Bible dit toujours dans Exode, à propos de cette nuée, de cette colonne de nuée qui était auprès du peuple, manifestation de la présence de Dieu. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. Jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée était sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Et elle précise, la nuée était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. La nuée était visible de tout le peuple à chacune de leurs étapes. Cette nuée, cette colonne de nuée, nous enseigne trois grandes vérités en ce qui concerne Dieu et son peuple. Trois grandes vérités en ce qui concerne Dieu et son peuple. Premièrement, Dieu est présent aux côtés de son peuple. Dieu accompagne son peuple. Dieu est avec son peuple. Dieu marche avec son peuple, à côté de son peuple. Deuxièmement, cette nuée nous apprend que Dieu dirige son peuple, que Dieu conduit son peuple. Il est celui qui donne les ordres, qui indique ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, où il faut aller. Au travers de cette nuée, nous dit la Bible, Dieu se mettait devant son peuple pour le diriger, pour le conduire, pour l'orienter. Et puis troisièmement, cette nuée nous apprend que Dieu unit son peuple, que Dieu rassemble son peuple. Parce que comme il est écrit, la nuée était visible de tout le monde. Tout le peuple pouvait voir la nuée. Ce n'était pas seulement certains qui se déplaçaient, qui voyaient la nuée, et puis les autres qui... Non, tout le peuple voyait la nuée, et quand la nuée se levait, le peuple savait qu'il était temps de faire les bagages et de partir. Dieu est aux côtés de son peuple, Dieu dirige son peuple, Dieu unit son peuple. Premièrement, Dieu est aux côtés de son peuple. On peut imaginer, n'est-ce pas, l'angoisse qu'il a pu avoir après la grande délivrance d'Égypte. Voilà que les soldats sont dans la mer, voilà qu'on traverse la mer Rouge à sec, c'est merveilleux. Mais on pourrait très vite avoir peur de se dire, mais où est-ce qu'on va aller? Et par quel chemin on va aller? Comment est-ce qu'on va savoir ce qu'on doit faire? Dieu, au travers de cette nuée, manifestait sa présence auprès de son peuple. C'est une façon de dire à son peuple, « Je vous ai fait sortir d'Égypte, mais je suis encore et toujours avec vous. Je ne vous abandonne pas. Je ne m'éloigne pas de vous. Je reste à vos côtés. » C'est ce que Dieu dit au travers de cette nuée. « Je reste à vos côtés. Je serai celui qui vous accompagnera. Je serai celui qui marchera avec vous. Je serai avec vous. Je vous accompagnerai. » Quelle présence rassurante que cette nuée. Quelle présence rassurante. Au travers de cette nuée, le peuple savait que Dieu était présent, que la présence bienveillante et aimante de Dieu était avec lui. Nous aussi, comme enfants de Dieu à titre personnel ou comme enfants de Dieu à titre d'Église, à titre de peuple de Dieu, nous sommes en Jésus-Christ les bénéficiaires de l'accompagnement bienveillant de Dieu. L'accompagnement bienveillant de Dieu. Dieu nous accompagne. À titre personnel, individuellement, mais en tant que peuple, en tant qu'Église, Dieu est avec nous. Jésus n'a pas dit, écoutez les enfants, écoutez les amis, je monte au ciel, et maintenant, faites ce que vous pouvez, débrouillez-vous. Je ne sais pas trop comment vous allez faire, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais débrouillez-vous. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, avant de partir. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Dieu est avec nous. Le Christ, le chef de l'Église, est avec nous. Et cela est vrai pour toute l'Église universelle répandue sur terre. La majorité de l'Église qui, là maintenant, avec nous, est en train de célébrer Dieu et d'entendre la parole de Dieu. Pour toute son Église, pour tous ses enfants, pour tous ceux qui lui appartiennent, Dieu est celui qui est présent. Christ est présent aux côtés de son Église. C'est Jésus qui nous dit « Je vous accompagne, je suis à vos côtés, je vous soutiens, pas pour quelques jours, pas pendant les vacances, pas seulement le dimanche, mais tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et cela est vrai aujourd'hui aussi, dans une époque où l'Église, le monde souffre, mais l'Église souffre aussi. Dans une époque où l'Église est aussi en difficulté, où l'Église ne sait pas trop où aller, Dieu est à nos côtés. La présence de Dieu nous est promise individuellement et en tant qu'Église, en dépit des craintes et des angoisses que nous pouvons avoir. Et aujourd'hui, maintenant, dans ce monde Covid-19, dans ce monde d'angoisse dans lequel nous sommes, Dieu est présent au milieu de son peuple. Dieu n'a pas abandonné son Église. Dieu est encore avec nous. Il nous accompagne. En dépit des persécutions que vivent les chrétiens, on sait combien aujourd'hui des chrétiens sur toute la terre souffrent à cause de leur foi, souffrent parce qu'ils ont suivi Jésus-Christ, souffrent parce qu'ils ont choisi de le suivre. En dépit des persécutions qu'il y a dans ce monde et que les enfants de Dieu vivent, Dieu est présent aux côtés de son peuple. Christ a dit « Je suis avec vous ». Il avait annoncé ses persécutions, mais il nous dit aussi « Je suis avec vous ». En dépit des difficultés que l'Église peut avoir aujourd'hui à faire connaître Christ, que c'est difficile aujourd'hui dans notre monde de faire connaître Jésus-Christ, dans un monde sécularisé où plus personne ne s'intéresse à Dieu, à la Bible, au péché, où on ne croit plus à tout ça, où on ne voit qu'avec ses yeux, on s'occupe seulement de la terre, que c'est compliqué de parler de Christ, que c'est compliqué de partager Jésus, que c'est compliqué d'annoncer le Dieu créateur. En dépit de cette difficulté qu'ont les chrétiens aujourd'hui à partager Jésus, il est au milieu d'eux. Dieu reste à leur côté. En dépit même, parfois, des erreurs qui peuvent être commises par les chrétiens, en dépit de toutes les manières avec lesquelles nous pouvons, nous, comme chrétiens, mal nous comporter et donner un faux témoignage, un mauvais témoignage à l'extérieur, Dieu reste aux côtés de son peuple. En dépit de la difficulté que nous avons parfois à marcher, selon la parole de Dieu, dans un monde de ténèbres, dans un monde sale, dans un monde compliqué, Dieu reste avec son peuple. En dépit de toutes les souffrances que nous pouvons vivre, individuellement, certainement qu'il y en a aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils ont un de leurs proches à l'hôpital. Ou en dépit des souffrances que nous pouvons vivre en tant que corps, en tant qu'Église, ne pas pouvoir se rassembler. En dépit de toutes ces choses-là, Dieu promet sa présence aux côtés de son peuple. Dieu fait savoir à son peuple qu'il sera toujours présent à ses côtés. Et pas seulement présent, pas seulement avec son peuple, pas seulement avec ses enfants, mais il va aussi donner la victoire à son peuple. Il va aussi faire triompher son peuple. Il va aussi soutenir son peuple. Oui, la Bible nous enseigne que le peuple de Dieu est la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux, ce qu'il a de plus précieux. Nous savons que l'Église est l'épouse de Christ. Il a donné sa vie pour elle. Il en prend soin, il la purifie. C'est par son sang précieux qu'il a racheté l'Église. Nous sommes acquis à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous sommes donc les bénéficiaires de la présence constante, fidèle, rassurante de Dieu, en dépit de tout ce que nous pouvons vivre. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne, que la Bible nous dit « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Heureux le peuple qui a un Dieu fidèle, présent, comme notre Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous sommes heureux d'être le peuple de Dieu. Nous sommes heureux de lui appartenir. Nous sommes heureux d'être à lui, parce que nous savons qu'il est le Dieu qui prend soin de son Église. Nous savons qu'il est le Dieu qui veille sur ses enfants. Il nous est dit aussi que nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes le peuple, lui qui est notre berger, nous sommes le troupeau de son pâturage. Et encore aussi, nous sommes le troupeau que sa main conduit. Psaume 95, verset 7. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. C'est sa main qui conduit l'Église. C'est sa main qui dirige l'Église. C'est sa main qui oriente l'Église. Et ça nous amène justement au deuxième point. Dieu dirige son peuple. Dieu conduit son peuple. Cette nuée, elle nous enseigne que Dieu n'est pas seulement présent aux côtés de son peuple, mais bien plus, il dirige son peuple. Il lui montre le chemin. La nuée manifestait la réalité que Dieu dirige son peuple, il conduit son peuple, et il conduit toutes choses, en fait. Parce que, comme nous l'avons vu, cette nuée, en fait, elle indiquait tout ce qu'il fallait faire. Quand c'était le temps de marcher, de se déplacer, le peuple se levait. La nuée se levait et donc le peuple avançait. Quand la nuée restait sur place, restait auprès du tabernacle, le peuple restait. Qu'elle reste là un jour, deux jours, trois jours, un mois, le peuple obéissait et écoutait les ordres que l'Éternel donnait au travers de la nuée. Parce que la nuée, c'est une manifestation de la volonté de Dieu. Au travers de la nuée, Dieu disait à son peuple ce qu'il fallait faire. Et le peuple, comme il nous est clairement expliqué dans Nombre chapitre 9, le peuple obéissait, le peuple respectait le timing de la nuée. Le peuple se déplaçait au rythme de la nuée, pas à son propre rythme, pas comme il avait envie, mais le peuple suivait le rythme de la nuée. C'est Christ aussi qui dirige son Église. C'est Christ aussi qui doit être à la tête de son Église. C'est Christ aussi qui doit dire à son Église ce qu'il y a à faire. C'est Christ qui doit nous dire ce que nous devons faire et quand nous devons le faire. En tant qu'Église, c'est Christ qui doit nous indiquer quand il est temps de créer une banque alimentaire, par exemple, quand il est temps de secourir les pauvres. C'est Christ qui doit nous indiquer quand il est temps d'aller évangéliser dans telle région, d'implanter une église dans tel endroit. C'est Christ qui doit nous indiquer quand il est temps de prendre un temps de prière en église, un temps à part avec le Seigneur. C'est Christ qui doit nous indiquer, qui doit diriger les serviteurs de Dieu pour savoir ce qu'il faut enseigner dans l'Église. C'est Christ qui doit diriger l'Église dans ses orientations. C'est Christ qui doit diriger l'Église dans le choix des responsables. C'est Christ qui dirige son Église. C'est Christ qui donne les ordres à son Église. Oui, c'est la Bible qui nous enseigne à tant de reprises, notamment dans Actes, que c'est Christ qui dirigeait l'établissement des ministères. C'est lui qui disait « Voici, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». C'est Christ qui dirigeait le service des serviteurs de Dieu. C'est Christ qui dirigeait l'implantation des églises et l'annonce de l'Évangile. Il nous est dit que c'est dans une vision que Paul a su qu'il devait aller en Macédoine. Il suivait l'orientation de Dieu. Il suivait le chemin que Dieu lui indiquait. C'est Christ qui doit diriger l'Église dans les décisions à prendre. C'est Christ qui doit diriger l'Église dans les situations dans lesquelles on a des problèmes et on ne sait pas quelle solution prendre. C'est Christ aussi qui doit diriger l'Église pour qu'elle puisse corriger les erreurs dans lesquelles elle est, les erreurs de doctrine, les erreurs de comportement. C'est Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé justement des lettres aux sept églises dans lesquelles Christ s'adresse à chaque église et leur dit ce qu'il reproche. Il leur dit « Voilà ce qui est très bien chez vous, ce que j'aime chez toi, mais... » Voici ce que j'aime, c'est toi, mais... Donc Christ enseigne son Église sur ce qu'elle doit changer, sur ce qu'elle doit faire. Il est celui qui conduit son Église. Et en réalité, avant que nous ayons toutes ces lettres à chaque Église, nous voyons en fait Christ, dans Apocalypse chapitre 1, Christ, le Fils de l'homme, le ressuscité, le vivant, nous le voyons glorieux, et il nous est dit qu'il marche au milieu des sept chandeliers. Et les sept chandeliers, en fait, sont des symboles des églises, des sept églises dont il est question. Et au travers de cette image, la Bible nous enseigne que Christ connaît ces églises, il marche au milieu de ces églises, qu'il veille sur ces églises, qu'il corrige ces églises, qu'il conduit ces églises. Et après, dans chaque lettre, on voit de quelle façon il dit à chaque église, voici ce qu'il faut faire, voici ce que j'attends de vous. Christ veille sur son église, Christ dirige son église. Et cette église, elle est fondée dans la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Christ dirige son Église. C'est au travers de l'Écriture que Dieu dirige son Église. C'est Luther qui disait « L'Église est sainte et assurée dans la parole du Christ. » L'Église est sainte et assurée dans la parole du Christ. Toujours Luther qui disait « La parole de Dieu est le signe par excellence qui permet de reconnaître le peuple de Dieu. La parole de Dieu est le signe par excellence qui permet de reconnaître le peuple de Dieu. Dieu dirige son Église au travers de sa parole. Mais aussi cette nuée, évidemment, elle nous fait penser à la direction du Saint-Esprit. Dieu dirige son Église par son Esprit. Comme il est dit, l'Église n'est pas un peuple orphelin, livré à lui-même, qui se débrouille en ne sachant pas trop quoi faire. L'Église est dirigée, conduite par le Saint-Esprit, dont il nous est dit, « Il vous conduira dans toute la vérité. Il demeurera avec vous, il sera en vous. Il vous enseignera toutes choses. » Dieu dirige son Église par sa parole et par son Esprit. Il conduit l'Église. Et c'est vrai à titre, évidemment, à titre d'Église, à titre de peuple de Dieu, mais c'est aussi vrai à titre personnel. Dieu dirige aussi nos vies, personnellement, nos vies individuelles. Lorsque nous remettons nos vies à Dieu, lorsque nous lui confions nos vies, il les dirige, il les conduit. Il nous dirige dans tous les domaines de notre vie. Il nous montre le chemin. Vie professionnelle, choix d'études, choix de conjoint, vie sociale, service que nous rendons pour le Seigneur. Dans toutes ces choses, Christ nous conduit. Christ dirige son Église. Il dirige les pas de ses enfants. Et voici ce que dit le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu dirige aussi nos vies. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Cela est donc un privilège pour nous que de nous savoir dirigés par Dieu, comme peuple et comme individu. Mais évidemment, une condition indispensable pour être dirigé par Dieu, c'est de suivre les ordonnances qu'il donne. C'est de suivre les ordres qu'il donne. C'est de suivre les indications qu'il donne. On a tous des GPS pour pouvoir aller là où on doit aller, mais évidemment, il faut écouter ce que le GPS dit. Et dans Nombre chapitre 9, il nous est en fait expliqué que le peuple obéissait aux instructions de la nuée. Le peuple ne se déplaçait pas quand il avait envie, en disant « Oh, on est resté assez longtemps, maintenant on va y aller ». Non, le peuple attendait que la nuée se lève. Le peuple ne s'arrêtait pas quand il avait mal aux jambes, en disant « On a assez marché, maintenant on va s'arrêter ». C'est la nuée qui donnait les ordres. C'est la nuée qui donnait le timing. C'est la nuée qui disait quand il fallait faire quelque chose, quand il fallait se déplacer. Et nous, sommes-nous prêts, comme les enfants d'Israël, comme le peuple de Dieu, à suivre les indications de Dieu, à suivre le timing de Dieu? Sommes-nous prêts à être à l'écoute, à nous taire quand il faut nous taire, à parler quand il faut parler, à agir quand il faut agir, à donner quand il faut donner? La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que nous sommes prêts à respecter le temps de Dieu, à respecter le timing de Dieu? Souvent, nous ne sommes pas comme ça. Souvent, nous faisons les choses quand nous avons envie, quand ça nous plaît. Il y a deux extrêmes. Soit on fait les choses trop vite. On dit, voilà, moi, j'y vais, je ne m'occupe pas, on veut servir Dieu, on court, on ne se forme pas, on ne consulte pas, on court et après, on a des difficultés. Ou alors le contraire, on dit, ouf, oui, je sais ce que Dieu me demande, mais je le ferai quand j'aurai le temps ou quand j'aurai envie. Je sais bien que Dieu m'appelle à vivre dans la pureté, mais bon, pas pour l'instant, j'ai encore un peu de temps, j'ai pas trop la tête à ça pour l'instant. Je sais bien que je dois arrêter de voler mon patron. Je sais qu'il est temps que je dois arrêter de voler mon patron, mais plus tard, quand j'aurai des meilleures rentrées, là, j'arrêterai de voler mon patron. Je sais que l'Église a besoin de moi dans un service. Je sais que maintenant, c'est le temps où je dois m'engager. Mais non, j'ai d'autres choses à faire. Et quand j'aurai fait ce que je devais faire, quand tout sera bien dans ma vie, alors là, je m'engagerai. Je sais que mes enfants ont besoin que je passe du temps avec eux. Je sais qu'ils attendent ça. Je sais qu'ils ont besoin que je passe du temps à lire la Bible avec eux, à prier avec eux, à jouer avec eux. Mais j'attendrai quand ils seront plus grands, je m'occuperai d'eux, parce que pour l'instant, ils sont trop petits. Je sais que mon épouse est en attente que je passe du temps à prier avec elle, qu'elle est en attente que je lise la Bible avec elle, que je passe du temps avec elle. Mais non, encore un petit peu m'occuper de mes affaires et ensuite seulement. Voilà comme nous sommes parfois. Nous ne respectons pas les temps de Dieu. Nous faisons les choses quand nous avons envie. Le peuple d'Israël suivait la nuée. Il suivait le rythme de la nuée. Et ça pouvait parfois être embêtant, parce que peut-être qu'ils avaient parfois envie de marcher, mais la nuée restait là pendant un mois, et donc ils obéissaient. Oui, le peuple de Dieu est un peuple dirigé par Dieu. Laissons-nous diriger par Dieu. Soyons promptes à écouter les ordres que Dieu nous donne dans sa parole, par son esprit, et à obéir quand il nous le demande, au rythme où il nous demande, à agir à son rythme, à son calendrier. Michée 7, verset 14 dit « Paie ton peuple, dirige ton peuple », c'est une prière, « Dirige ton peuple, Seigneur, le troupeau de ton héritage, dirige ton peuple ». Nous avons besoin que Dieu dirige l'Église et qu'il dirige aussi nos vies. Et puis troisièmement, ce texte nous apprend que Dieu unit son peuple, que Dieu rassemble son peuple, que Dieu fait de son peuple marcher comme un seul homme, parce que c'est ce qui se passait. Tout le peuple pouvait voir la nuée et tout le peuple se déplaçait en même temps. Il n'y avait pas les coureurs devant et puis ceux qui attendaient. Tout le peuple marchait, comme dit la Bible, comme un seul homme. Comme un seul homme. Au travers de la nuée, Dieu unit son peuple, Dieu rassemble son peuple. Nous savons que cette unité, l'Église-là, elle nous est acquise. Et Jésus a prié en disant, « Je te prie afin que tout soit un. Comme Père, tu es en moi et que moi je suis en toi. Qu'il soit un comme nous sommes un. » Jésus a prié pour que son Église soit une, pour que son Église soit unie, pour que son Église marche d'un seul pas, comme un seul homme, à la direction de la parole de Dieu, à la direction du Saint-Esprit. Cette unité nous est acquise, mais nous devons faire des efforts pour la préserver, cette unité. Nous devons faire des efforts pour travailler cette unité, pour que l'unité de l'Esprit qui nous est donnée demeure et soit fortifiée. 1 Corinthiens dit « Je vous exhorte, frères, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'unité. Nous sommes appelés à être un peuple un, et pas seulement notre Église locale, mais l'Église est appelée à être un peuple uni, un peuple qui marche avec la même volonté. Mais cela demande un engagement de notre part. Promouvoir l'unité du peuple de Dieu, c'est prier, c'est intercéder pour l'Église, c'est prier pour l'Église, c'est prier pour les frères et sœurs, c'est prier pour les responsables, c'est dire la vérité dans l'amour, c'est refuser de critiquer les autres, c'est refuser de critiquer l'Église, c'est refuser d'être non constructif dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, c'est rechercher la paix quand ça dépend de nous. C'est d'encourager les autres, c'est de se soucier des autres, sincèrement se soucier des autres. C'est d'accepter les différences, accepter que nous sommes différents, nous avons des personnalités différentes, des contextes de vie différents. Promouvoir l'unité, c'est aussi manifester de la compassion, c'est voir les autres comme plus importants que nous, c'est chercher à soutenir les autres, c'est respecter l'autorité des responsables, tant et tant de choses qui participent à ce que nous fortifions l'unité du peuple de Dieu, car Dieu veut un peuple qui soit un. Pour conclure, oui, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Soyons heureux, sois heureux de faire partie du peuple de Dieu, parce que c'est un peuple que Dieu unit, c'est un peuple dont Dieu prend soin, c'est un peuple que Dieu fortifie. Et c'est ce que le psaume 92, pour conclure, nous dit. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'est-à-dire heureux le peuple qui sait entendre les sons donnés pour la louange de Dieu. Ce peuple, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. C'est ça l'Église. Le peuple qui marche à la clarté de la face de l'Éternel. Et ce peuple, il se réjouit sans cesse de ton nom et se glorifie de ta justice. Ce peuple se réjouit que tu sois son Dieu. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Oui, nous pouvons être heureux, sois heureux d'être membre du peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu est dirigé, conduit, aimé par Dieu. Nous marchons à la lumière de sa face, nous le contemplons et nous nous réjouissons de ce qu'il est pour nous. Il se réjouit sans cesse que tu sois son Dieu. Réjouissons-nous aujourd'hui qu'il soit notre Dieu. Réjouissons-nous d'être le peuple qui appartient à Dieu. Prions ensemble. Pour cette prière, nous voulons aussi nous inspirer de cette vieille prière de Grégoire de Tours Et nous voulons la prier ensemble avec vous, avec ceux qui sont dans la salle ici, vous qui êtes derrière vos écrans, nous voulons prier ensemble en disant « Dieu notre Père, conduis ton Église, que dans ce monde, elle vive de plus en plus dans la sainteté, dans l'unité et dans l'amour. Par Jésus le Christ, ton Fils, et dans le Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te prier. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui dirige ton peuple. Tu conduis ton peuple. Et quand nous voyons cette colonne de nuées qui conduisait le peuple, nous sommes émerveillés. Et en même temps, nous sommes dans la joie de savoir que nous aussi, ton peuple, l'Église, tu nous diriges. En tant que peuple, en tant que corps, mais en tant qu'individu, tu es avec nous, tu nous diriges, tu nous unis, tu prends soin de ton Église et nous te disons merci pour cela. Merci pour le privilège d'être tes enfants par Jésus-Christ. Merci pour le privilège de t'appartenir. Seigneur, merci. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour que tu nous aides les uns et les autres, comme individus et comme Église, à respecter tes enseignements, à respecter les instructions que tu donnes, les ordres que tu donnes, ton temps, Seigneur, comme le peuple respectait le temps de la nuée. Aide-nous, Seigneur, à être à l'écoute de tes enseignements, de tes instructions, de ce que tu veux. Seigneur, nous voulons aussi te remettre toute ton Église sur la surface du globe. Prends soin de ton Église. Seigneur, conduis ton Église, unis ton Église. Nous te prions pour les chrétiens qui souffrent par le monde aujourd'hui. Fortifie-les. Nous te prions, Seigneur, pour les responsables des églises, pour ceux qui ont un ministère dans le corps du Christ. Seigneur, dirige-les. Nous te prions, Seigneur, pour que ton Église soit conduite par toi, pour qu'elle soit unie en toi, pour qu'elle soit fidèle à ta parole, pour qu'elle soit dirigée par ton Esprit. Seigneur, bénis ton Église. Conduis ton Église. C'est notre prière aujourd'hui, par Jésus-Christ. Amen.